avec son épouse Bernadette. Il est accusé d'avoir commandité son meurtre en mars 2008, un crime reconnu par l'homme d'entretien du couple Méziane Belkacem, qui affirme avoir agi à la demande de son patron en échange de 30 000 euros. Jean-Michel Bissonnet a toujours nié les accusations dont il fait l'objet.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Ce soir, nous partirons sur les pas d'Alexandra David-Nel, l'exploratrice qui, en 1924, à l'âge de 56 ans, traversa le Tibet déguisée en mendiante et fut la première femme étrangère à pénétrer dans Lhasa, la capitale tibétaine. À ce soir, 21h, France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour, je suis tunisien, je viens de recevoir un coup de téléphone de ma ville Tarsis, ils m'ont dit qu'il y a eu des balles réelles maintenant par la police sur la population et j'ai un voisin apparemment touché, son fils est touché, on ne sait pas, il est mort ou pas mort. Merci.
Bonjour, j'appelle de la part du collectif Solidarité Maghreb de Marseille. C'est pour annoncer l'initiative du samedi 15 janvier. Il y aura une manifestation en soutien au peuple tunisien à partir de 14h30 au Réformé, c'est-à-dire tout en haut de la Canebière pour ceux qui connaissent Marseille. Nous appelons toute la population marseillaise, toute la population maghrébine et tous les peuples qui sont opprimés aujourd'hui à soutenir le combat de la Tunisie, car c'est un exemple pour les autres populations qui doivent s'inspirer de ce mouvement de Tunisie. À travers ce mouvement-là, on voit bien que la lutte paye. Aujourd'hui, Ben Ali a fait des déclarations et on espère que si on continue encore un petit peu, Ben Ali décidera de partir parce qu'une dictature ne peut pas arranger comme il prétend. Une dictature, on doit l'abolir immédiatement. Donc voilà pourquoi il faut continuer à soutenir le peuple tunisien en espérant encore une fois que cette lutte-là donne envie aux autres peuples du Maghreb de se lever et de se lever tous d'une même voix et de combattre l'impérialisme, de combattre la dictature et de pouvoir accéder à la liberté et à des conditions de vie dignes, comme tout le reste de la population. Voilà.
Comment on dit « nous sommes tous des Tunisiens » en arabe ? Courage.
Je suis en train d'écouter ton émission là de jeudi sur ce qu'on vous a fait voir sur Antenne 2. Mais je pensais quelque chose, c'est vrai que les politiques, les financiers ont essayé et ont réussi pour l'instant à changer le cours des choses, de passer du keynésianisme à un libéralisme sauvage, mais ils ne l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait aussi avec les médias, il fallait faire avaler la soupe au peuple. Donc il y a des gars comme Sylvestre, et j'en citerai d'autres, mais surtout qu'on entendait tous les matins la petite musique, et que c'est tout à fait normal d'aller vers cette voie du libéralisme, sinon on était des peureux, alors il n'y a pas que Sylvestre, Le Monde, avec le triumvirat Colombani, Minc et Edwy Plenel, qui a changé maintenant, qui est revenu à ses premiers amours. Donc Serge Julie, tous ces gens-là nous ont fourrés dans la mouise maintenant, parce que maintenant, eux, ils se sont retirés des affaires, et ça va pour eux, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les médias. Peut-être une émission pour le futur. Allez, salut.
Bonjour à tous. Je réagis sur l'émission d'hier, particulièrement la séquence durant laquelle Éric Orsenin s'exprime sur la crise de l'eau à venir. Il faut réaliser le cynisme de cet homme. Il nous dit « la crise de l'eau est imminente et il faut transformer ce problème en opportunité. Et nous, en France, nous y arriverons car nous avons les deux sociétés les plus performantes au monde pour le traitement de l'eau. » Oui, mais il y a déjà, hors de nos frontières, des millions de gens souffrant d'un accès précaire à l'eau potable. Cela va empirer gravement, mais ça ira. On fera du fric et on créera des emplois si l'eau se raréfie. Monsieur Orsenin, pourquoi ne pas dire que ces deux sociétés françaises se nomment Veolia, ex-Vivendi et Suez? Pourquoi ne pas dire qu'elles sont en fait des multinationales? Les multinationales, sans aucun doute, sont des entités qui ont énormément profité de la déréglementation pour se développer à outrance. Elles ont une part de responsabilité dans la crise économique que nous traversons. Et vous, monsieur Orsenin, vous nous demandez d'être optimiste, parce que deux d'entre elles vont se positionner stratégiquement sur le marché de l'eau et, ce faisant, soutenir l'économie française. Je crois qu'il vaut mieux être pessimiste. Cela nous évitera d'être surpris.
Aïe, aïe, aïe. Il me Mieux vaut être pessimiste, cela nous évitera d'être surpris. Merci, chers AMG. Merci, chers amis. Alors, c'est un petit peu dommage, hier, on n'a pas eu le temps d'évoquer dans l'émission d'hier, qui était consacrée à cette soirée sur France 2, consacrée à la description de la crise en France, fric, crack et gueule de bois. On n'a pas eu le temps d'évoquer la fin du film, où il y a des propositions qui sont faites, et notamment parmi les pistes, les alternatives possibles à la situation dans laquelle nous nous trouvons, les microcrédits. Et il y a un hommage appuyé à Mohamed Younous. On évoque même la sainteté de Mohamed Younous. Manque de chance au moment même où sortait où le film était en élaboration. Très probablement, il y a eu de très très mauvaises nouvelles venant d'Inde, et qui signalait des difficultés pour les emprunteurs à rembourser leurs dettes dans le cadre de microcrédit, mais c'est quand même du crédit. Donc difficulté des emprunteurs à rembourser leurs dettes, recouvrement très musclé de ces dettes, si bien que suicide collectif, suicide massif en Inde, au point que l'État de l'Andhra Pradesh a suspendu les sociétés de microcrédit qui opèrent dans la région. Donc c'est dire si cette alternative-là, cette piste-là est à revoir. Aujourd'hui, jamais le dimanche. On va à Albertville avec des ouvriers et des ouvrières d'une chaîne de magasins, d'épicerie qui s'appelle Aide, et qui tous les dimanches manifestent contre le travail du dimanche. Auparavant, on va se tourner vers la Tunisie, vers Tunis. Vous êtes au courant, vous suivez le discours hier soir du président Ben Ali, annonçant toute une série d'ouvertures suivies de manifestations visiblement, apparemment favorables à ces déclarations du président, des articles enflammés, notamment dans le Figaro, disant ça y est, c'est fini, tout s'arrange et tout est merveilleux. Aujourd'hui, c'est moins sûr, le scepticisme l'emporte, et voici des échos de notre ami Siem Ben Cédrine que nous avons pu joindre à Tunis.
Allô?
Allô Siem?
Oui, Daniel. Oui.
Comment tu interprètes le discours du président Ben Ali d'hier soir?
Écoutez, pour moi, c'est un discours de tentative de récupérer un brin de confiance en reconnaissant ses erreurs, mais il a fait tout faux, parce que les Tunisiens sont sortis dans la rue depuis hier, on leur a tiré dessus, il y a de nombreux morts, à l'heure qu'il est tout Tunis et sur l'avenue Bourguiba, massé devant le ministère de l'Intérieur, appelant à la démission de Ben Ali. Le peuple tunisien a vomi Ben Ali. Il n'en veut plus. Tout ce qu'il propose, c'est venu trop tard. Le peuple tunisien veut un autre régime, un autre pouvoir démocratique qui respecte sa liberté, qui respecte sa dignité et qui cesse de piller le pays. Voilà.
On entend klaxonner.
Oui, mais parce qu'il y a un vrai chaos. Il n'y a pas de police dans les carrefours. Ils ne sont pas là. Et c'est très, très inquiétant. Alors, à côté de moi, il y a une source hospitalière. C'est un médecin qui est à côté de moi. Il dit au moins 8 morts dans Tunis.
Tu veux me le passer, le médecin?
Je vous le passe.
Oui.
Allô?
Oui.
Bonsoir, je suis le docteur Ezaouia, chirurgien orthopédiste et secrétaire général du syndicat des médecins universitaires. Alors, nous avons recensé hier, entre deux hôpitaux, 8 cadavres, 8 dépôts de corps. Et ce matin, juste en fin de matinée, 2 dépôts de corps, 2 cadavres. Il semblerait que ces cadavres datent d'hier, pas de ce matin. Parce que les morts, c'est après le discours de 8 heures. Donc c'est des jeunes qui sont sortis après le discours pour protester contre le discours.
Donc vous n'êtes pas du tout rassuré par le discours du président?
Non, toute la Tunisie n'est pas rassurée par le discours du président. Il y a actuellement au moins 20 000 personnes qui font un sit-in devant le ministère de l'Intérieur et qui disent que nous ne partirons pas. Et il y a une grosse manifestation qui vient de quitter le faubourg de Bab Suika, qui est le quartier le plus populaire de Tunis, et qui va rejoindre cette manifestation au centre-ville devant le ministère de l'Intérieur. Et la police s'est retirée, et pour le moment, heureusement, elle laisse faire. Aujourd'hui, tous les hôpitaux, on est regroupés dans un quartier, Kebab Saadoun, tous les hôpitaux, les grands hôpitaux de Tunis, il y a eu une grève générale et il y a eu un rassemblement de tout le corps de soins, de l'infirmier jusqu'au chirurgien, jusqu'au professeur, autour de 5000 personnes sont rassemblées devant le ministère de la Santé et ils ont réclamé le départ du président de la République.
Donc, selon vous, selon ce que vous voyez autour de vous, le discours du président d'hier soir n'a pas calmé
non,
du tout les affaires?
Pas du tout. Pas du tout. Loin de là. Ils ont voulu orchestrer des manifestations pro-gouvernementales hier soir en ramenant des voitures de location, puisque les voitures de location chez nous ont une couleur particulière de la plaque d'immatriculation. Donc on les reconnaît tout de suite. Et sur, à la télé, on a reconnu que c'était des voitures de location, c'était pas spontané. C'était organisé et bien sûr, il y a eu des contre-manifestations hier soir pour contrer cette manifestation pro-gouvernementale qui n'était pas importante, ça a été filmé, on ne voyait pas grand monde.
Ok, voilà. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Voilà.
Partout, on s'étonne de l'indécente complaisance de la France vis-à-vis du régime de Ben Ali. Voici un document, la voix de notre prochain président de la République.
Bien, je suis ici à Tunis ce matin après avoir été à Tripoli hier.
TV7 Tunisie.
Avant de passer par Tunis, rencontrer le président Ben Ali.
18 novembre 2008.
Et puis rencontrer aussi les responsables économiques du secteur public et du secteur privé.
Dominique Strauss-Kahn.
Pour leur dire deux choses. La première, c'est que l'économie tunisienne va bien, malgré la crise. La crise frappe l'ensemble du monde, mais je m'attends à une croissance économique pour la Tunisie qui sera forte. Encore cette année, la politique économique qui est conduite est saine et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents comme la Tunisie. Le jugement que le FMI porte sur la politique tunisienne est très positif et je n'ai pas de crainte pour l'année prochaine, même si à l'échelle de la planète, ça ne va pas être facile. En Tunisie, les choses continueront de fonctionner correctement.
Pardon. On va vers notre sujet du jour, jamais le dimanche, le 66e dimanche. Ça s'appelle comme ça, ça s'intitule comme ça, le 66e dimanche. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer. C'est pour cela que moi j'ai pris... J'ai la force pour que je continue la grève, je ne peux pas arrêter comme ça.
Ouais, salut Daniel, c'est Olivier des Mutins Pongés. En fait, je t'appelle parce que, tu sais, on aide des filles de 360 degrés, même plus, qui est une assoce de Marseille, qui sortent un film qui s'appelle Remue-ménage dans la sous-traitance, et qui raconte l'histoire extraordinaire des femmes qui ont lutté dans les années 2000, des femmes de ménage de Arcade. Tu sais, c'était le groupe Accor qui avait fait une grève et qui ont gagné, parce que c'est quand même une victoire. C'est un peu une sorte de bread and roses à la française, quoi. Et donc, ça sort comme ça. Ils font une petite tournée dans les cinémas. Ils en font une le 13, donc jeudi 13 janvier à Marseille, aux Variétés. Et ils font une projection dans laquelle on sera là avec les Mutins Pongés et Agone, édition, donc vendredi 14 janvier à Paris, au cinéma La Clé. Et c'est à 20h30, voilà. Il y a plus d'infos sur le site lesmutins.org. Bon, bah à bientôt. Salut.
Bonjour les AMG, bonjour Daniel et toute l'équipe. Le prochain repère de Cambrai aura lieu le mardi 18 janvier à 20h au Garage Café. Le sujet sera instruction, éducation, enseignement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.
Plus d'une soixantaine de morts pour que Ben Ali nous déclare qu'il allait nous lâcher le site de YouTube et du Dailymotion, pour nous dire qu'il allait baisser le prix du sucre. Non, monsieur Ben Ali, non. Nous ne sommes pas morts pour cette raison-là. Nous voulons de la liberté. S'il vous plaît, ne le croyez pas. Il est en train de nous manipuler. Il essaye encore une énième fois. S'il vous plaît, aidez la Tunisie. Ne nous lâchez pas. Je voulais aussi rappeler que cet après-midi à 18h, devant le consulat tunisien de Toulouse, il allait y avoir un rassemblement. Cet après-midi à 18h devant le consulat tunisien de Toulouse. Aache Tounes Hurra. Nous voulons une Tunisie libre.
C'est le 66e dimanche ?
Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Tout à fait, 66e dimanche qu'on fait grève sur le parking de d'Albertville parce qu'on n'est pas volontaire au travail du dimanche et qu'on nous l'impose.
Consommer et surconsommer et encore consommer le dimanche, on peut peut-être attendre le lundi et permettre aux gens de vivre autre chose que d'aller encore consommer ou encore acheter.
Mais de toute façon, c'était sur la base du volontariat.
Non, c'est pas c'est la base du... C'est comme à l'armée chez nous, le volontariat. C'est désigné d'office.
Il en faut, heureusement qu'on a nos femmes pour booster un peu. Parce que dans l'AED, il y a combien de salariés ? 11 ? Combien de gars ? 3. C'est les 3 qu'il faut pas grève. Les 3 gars.
À force d'avoir le cul entre les deux chaises, où on choisit son camp, on tombe par terre. Hein.
Mais alors si Michelle Obama, elle vient à Albertville, elle va pas pouvoir venir faire ses courses à ED.
Alors si Michelle Obama, elle vient à Albertville, je lui dirais...
Allez-y en anglais.
Ou en anglais, non, c'est trop difficile. Non, non, je suis désolée.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, le 66e dimanche.
Flight number 2, arriving from New York.
On est dimanche, Daniel, il est 7h du matin, on est sur une route à Tours-en-Savoie, à côté d'Albertville, et autour de moi, il y a les massifs de montagnes avec au sommet la neige blanche dans la nuit. Et là, si je bosse dès 7h du matin le dimanche, c'est justement pour rencontrer les caissières qui refusent de travailler le dimanche. Là, il y a la lumière d'allumer et on va rencontrer Corinne qui, à l'intérieur, se prépare non pas à partir travailler, mais à partir pour, d'après mes calculs, son 66e dimanche de grève d'affilée, puisque ça fait... quasiment un an et demi maintenant que les caissières de ED font grève. Donc bon voilà, pendant que vous faites la grève ce matinée, bande de feignasses, ben on va aller soutenir les travailleurs de ce pays. Et encore donc un bonnet du Père Noël sur la porte.
Bonjour.
Bonjour.
Hop. Rentrez.
Tenez, je vous apporte des croissants.
C'est gentil, merci.
Eh ouais, lutter contre le travail, c'est du boulot. Lutter contre le travail le dimanche, c'est du boulot tous les dimanches. Et ça fait 66 dimanches que les employés d'un magasin ED d'Albertville font le piquet de grève devant leur magasin parce qu'elles refusent, je dis elles parce que c'est majoritairement des dames, elles refusent, elles ne veulent pas bosser le dimanche, contrairement à ce qu'a souhaité et légiféré, mis en loi, notre président des riches. Et oui, c'est pas seulement le président des riches, hein, c'est aussi l'adversaire des modestes et l'adversaire des ouvriers. Il veut les faire bosser le dimanche, nous faire bosser le dimanche. C'est une longue histoire, le dimanche. C'est pas n'importe quoi, le dimanche. C'est une conquête, le dimanche. Et oui, le repos hebdomadaire, le repos dominical, c'est une conquête. Et comme toutes les conquêtes populaires, ouvrières, il s'agit pour Nicolas Sarkozy et ses amis de les détruire petit à petit, mais avec beaucoup, beaucoup d'entêtement et de radicalité. Vous avez vu la tête du président Ben Ali hier à la télé, sur le net. Il n'était pas très à l'aise quand même, ce garçon. Et il a avoué quand même des choses assez incroyables. Qu'il n'était pas au courant, que oui, il fallait arrêter de tirer sur les gens, qu'on allait libérer, etc. Il emmenait pas large, le président Ben Ali. Il n'y a pas très loin de son palais des hélicoptères qui sont tout prêts à l'emmener à Malte, où il a ses avions qui l'attendent pour l'emmener très loin. Il est à deux doigts du départ, le président Ben Ali. Sa famille, d'ailleurs, est déjà partie. pourquoi j'évoque le président Ben Ali. Il en sera, je pense, un jour, de même, peut-être pas pour le président Sarkozy, mais en tout cas, pour le libre-échange. Pour le libre-échange, ça fera ça un jour. On nous a fait croire, et nous avons eu la sottise de croire, que c'était comme ça, qu'on ne pouvait pas faire autrement, que ça s'imposait, que c'était la réalité, il fallait être pragmatique, et que nous n'étions pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des partenaires dans le monde et des voisins, et il faut bien faire comme on vous dit de faire, en l'occurrence peut-être de bosser le dimanche, parce que il y a une divinité, il y a une main invisible qui est la main invisible du marché qui règle tout. Le marché réglera tout, qu'on le veuille ou non. Il y a une sorte de logique, une force qui fait que ça s'arrangera. Il suffit de subir ce marché, il suffit peut-être parfois de lutter contre, il s'agit de consommer, par exemple, beaucoup, mais intelligemment, et les choses, peu à peu, par le jeu de la concurrence, s'organiseront. Il y a quelque chose de très libertaire dans ce libéral. On sait très bien à quoi cela mène, en principe, c'est que c'est le plus fort qui l'emporte, et aujourd'hui, on voit bien que c'est le plus fort qui l'emporte, mais il y a un jour où le plus fort est complètement dépité, il a l'air complètement désorienté, il est là, tout nu, tout déplumé, pitoyable presque. Espérons que ce jour-là arrivera bientôt, ce temps des cerises-là. En tous les cas, cette heure ne va pas y contribuer pour peu, et ses ouvrières non plus. Le 66e dimanche.
Du lundi jusqu'au samedi midi, tout au long des longs jours de la semaine, on se dit en faisant son urbain que le jour de repos n'est pas bien loin. Adieu, adieu la semaine, et vive le dimanche matin. Ah, que c'est bon de flâner un petit brin le dimanche matin, de dormir jusqu'à midi moins vingt le dimanche matin, puis d'aller retrouver les copains le dimanche matin. Un gai soleil nous attend, on a le cœur tout content, pom 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 pom, la vue est belle. C'est fou comme on se sent bien du moment qu'on ne fait rien, pom pom pom, le dimanche matin. Ah, que c'est bon de chanter ce refrain
le dimanche matin,
et d'en faire profiter les voisins
le dimanche matin,
d'arroser les fleurs de son jardin
le dimanche matin,
et de se dire aujourd'hui fini, fini les soucis, pom 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 pom, la vie est belle. Quand le bonheur nous dit viens, c'est fou comme on se sent bien, pom pom pom, le dimanche matin.
C'est une vraie usine chez vous le dimanche matin. Il y a le café, il y a des tas d'oranges qui sont pressées. Ensuite vous avez, ça c'est quoi vous, ça, c'est
un gratin savoyard.
Ça, vous avez un gratin savoyard.
Oui.
Il y a déjà quelque chose au four.
Oui, alors j'ai mon rôti de porc qui cuit tranquillement, sans graisse, sans...
Et puis en dessous, c'est quoi?
En dessous, c'est une tarte au fromage qui est en train de cuire aussi.
Ah, c'est l'usine, hein. Ça a l'air d'être plus de boulot de faire grève que de travailler.
Ça n'est pas une corvée, c'est un plaisir, on va dire comme ça.
Alors, j'ai calculé vite fait, c'est le 66e dimanche?
Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Tout à fait, 66e dimanche qu'on fait grève sur le parking d'Albertville, parce qu'on n'est pas volontaire au travail du dimanche et qu'on nous l'impose.
Donc comment ça a commencé cette histoire?
Décembre 2007, en fin de compte, c'est notre direction régionale, c'est-à-dire ED, avait décidé d'ouvrir 56 magasins sur notre région Rhin-Rhône. Bon, il y avait Grenoble, il y avait Lyon, il y avait plein de... Puis bon, les gens se sont révoltés en disant que on voulait pas ouvrir le dimanche. Donc certains magasins ont fait grève. Donc en décembre 2007, il a décidé d'arrêter son projet d'ouverture le dimanche.
Donc il y avait eu une première tentative,
oui,
en décembre 2007.
Oui.
Marrant parce que c'est en novembre 2007, le 29 novembre 2007, que Nicolas Sarkozy intervient à la télévision en disant...
Mais je mettrai aussi en débat la question du travail le dimanche.
Bon, maintenant, je vais donner une chance à tous les travailleurs
qui Voltrailler le dimanche puisse le faire sur la base de l'accord.
Et ça sera bien sûr payé double.
Qu'il soit payé le double.
Sur la base du volontariat.
La seule façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de créer les conditions de la croissance et de réhabiliter le travail.
Donc voilà, grâce à vous, parce que vous étiez volontaire, vous alliez être payé double, déjà c'était une chance, et vous alliez retrouver la croissance. Donc c'est ça que vous proposez, ED, dès le lendemain de l'intervention présidentielle, en décembre 2007.
Ah non, pas du tout, non. Nous, c'était... Il n'y avait pas, surtout pas les heures à 100%, ça surtout pas. Et priorité au volontariat, chez ED, ça n'existe pas. On va travailler, sinon, c'est la porte. Et là, des magasins ont fait grève, on leur a montré qu'ils n'étaient pas volontaires. Il y a des magasins qui ont fait grève deux jours, je crois, de suite, c'était dans Grenoble, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a décidé qu'il n'ouvrirait pas les magasins en 2007.
Il a d'abord essayé de les mettre tous, un gros paquet, 56 magasins, oui, en même temps, en décembre 2007. Il a vu que ça ne marchait pas.
Oui, donc après, il a isolé les magasins à l'ouverture, quoi.
Il a essayé de faire un par un.
Deux ou trois, ou une petite région, ou Grenoble, ou que Lyon. Mais après, il a vu que s'il faisait des zones trop rapprochées, ça ne marchait pas. Parce que, évidemment, tout le monde se donnait le mot comme quoi il fallait qu'on fasse un mouvement. Voilà. Après, il a décidé un petit peu Albertville, un petit peu Saint-Jean, ou un petit peu Seynaud. On a quand même une distance à peu près de 70 km un peu chacun. Donc, on n'est pas à côté pour se parler. Donc, c'est par téléphone, c'est pas toujours évident. Mais nous, on a résisté, et puis jusqu'au jour, en 2009, il a décidé d'ouvrir. Et donc,
il faut vous suivre, hein. Vous n'arrêtez pas de courir entre le garde-manger, le four, et puis...
Ah oui, il faut un petit peu tout surveiller, comme ça, je vous souviens que ça crame.
Il ne s'agit pas d'obliger les Français à travailler le dimanche, personne n'a pensé cela.
30 juin 2009.
Mais enfin.
Nicolas Sarkozy.
Nous sommes le pays au monde qui reçoit le plus de touristes. 80 millions de touristes à l'année. Est-ce qu'il est normal que le dimanche, quand Madame Obama veut, avec ses filles, visiter les magasins parisiens, je dois passer un coup de téléphone pour les faire ouvrir? Alors, tous ceux qui soutiennent le président Obama et qui ont raison, qui trouvent très bien, qu'ils aillent leur expliquer pourquoi le dimanche, nous sommes le seul pays où à Paris, c'est fermé.
Mais alors, si Michelle Obama, elle vient à Albertville, elle va pas pouvoir venir faire ses courses à ED.
Alors, si Michelle Obama, elle vient à Albertville, je lui dirais...
Allez-y, en anglais.
En anglais, non, c'est trop difficile. Non, je suis désolée. Là, je lui dirais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Si elle veut quelque chose, peut-être qu'on a dans le placard. On va passer un bon moment ensemble. Je vous fais à manger ou on boit quelque chose. Puis on ira en course le lundi. Pas qu'on ouvre les Champs-Élysées exprès pour elle. Je trouve ça un peu dommage, quand même.
Donc, si elle vient à Albertville, au ED d'Albertville...
On lui payera un café, on lui payera une petite galette, mais elle ne fera pas ses courses. On lui expliquera que les femmes françaises, elles sont un peu révolutionnaires. Je pense qu'elle, c'est une femme, je pense qu'elle comprendra. Je pense qu'on lui a donné l'autorisation de faire ses petits caprices, mais je pense en expliquant à une grande dame comme ça pourquoi on se défend, je pense que cette dame, elle comprendra aussi.
Bon, on va vous emmener à la Maison Blanche, alors.
Ouais.
Et vous revenez de travailler aussi, alors, monsieur?
Voilà, un dimanche aussi.
Et vous faites pas grève, vous êtes un courageux. Vous êtes un peu plus patriote que votre épouse, quoi, parce que votre épouse, elle fait rien pour la croissance, contre la crise et puis tout ça. Mais vous, 8h30, vous revenez du travail le dimanche.
Ouais. Je pense que c'est pas pour la même chose, c'est pour le service public, pour l'état des routes. Donc ça, c'est obligatoire, comme tous les hôpitaux, les pompiers, les médecins. Ça peut pas attendre le lundi. Ça. Faire les courses, je pense que ça peut déjà se faire le vendredi pour tout le week-end. On rattaque le lundi.
Oh non, c'est pas vrai.
Bon, maintenant, on sort de la maison, il fait jour.
C'est moi, je vais arriver.
Lundi, je reprends le lycée. Mardi, c'est la chimie. Le mercredi, c'est les musées qu'on parcourt à l'infini. Jeudi, visite à la famille. Vendredi aussi. Samedi, mes notes, oh quel ennui. Ainsi passe ma vie. Mais laissez-moi donc mon dimanche. Rien qu'à moi, je vous en prie. Oh oui, mon dimanche, pour vivre à ma fantaisie.
passe sur l'autoroute, sur la rocade, et il y a Kyriade Luminaire qui est fermée, la Foire Fouille qui est fermée, Ford, Citroën, là, fermé.
Tout est fermé.
Nous, tous les garages automobiles sont fermés.
Tous.
Donc, ouais. Vous voyez, on ne comprend pas que la distribution puisse ouvrir.
On arrive donc là sur le parking de Aide. Il y a quoi? Il y a une cinquantaine de personnes autour des tables à l'entrée du parking, sous des parasols forains, des parasols de marché. Vous avez transformé ça ici, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente,
oui,
en petit agora, petit forum où on se retrouve tous les dimanches matins.
Oui,
quoi.
Avant, on se mettait là-bas, où il y avait la voiture rouge.
Voilà. Donc juste à côté de ED.
Ouais. Et après, on a été assigné donc au tribunal.
Donc on a changé un petit
on a changé notre, notre stratégie.
Salut. Salut. Valérie, ça va?
Ça va.
67 dimanches déjà, je crois.
66.
6.
6.
Ouais. 66 dimanches, oui, vous avez entendu, ça fait 66 dimanches qu'ils se retrouvent, qu'elles se retrouvent, et c'est pas triste, et c'est pas triste du tout, il y a toute une gaieté, tout un bonheur, oui, qu'on ne décrit pas assez, qu'on ne vante pas assez dans la lutte.
Là aussi, là, voilà, donc ça c'est l'agent de l'écrivain.
Alors Pays, là vous êtes en train de découper
une galette.
La galette sur le parking à l'entrée de ED. Et c'est chez ED que vous travaillez.
Voilà, c'est chez ED que je suis agent de maîtrise.
Oula, vous avez du galon.
Oui, vous avez du galon. Bah, c'est manutentionnaire de luxe. Hein. La seule chose que j'ai de plus que les autres filles, c'est les clés et les responsabilités. Mais sinon, le boulot, à quelque chose près, c'est le même. Hein. Pour un petit chouille de plus à la fin du mois.
Pour combien de chouilles de plus? Vous êtes payé combien?
Je touche 1150 euros par mois.
Oh là là.
Avec les primes.
Ça vaut le coup d'avoir des galons. Hein,
ah, ça vaut le coup d'être agent. Ça fait bien quand on parle aux gens. Moi, je suis agent de maîtrise chez ED. Ça fait bien, mais faut pas...
Et donc, vous faites quoi alors chez ED?
Tout. C'est-à-dire ouvrir le magasin, gérer les caisses, gérer le départ et l'arrivée de l'argent. Et en même temps, tout ce que fait une caissière. C'est-à-dire nettoyer le parking, nettoyer le magasin, encaisser, mettre en rayon. C'est-à-dire que je fais tout.
Mais alors aujourd'hui, vous ne devriez pas être ici en train de découper une galette, vous devriez être là-bas en train de faire tout.
Oui, mais non, parce que j'ai une enfant de 9 ans et que. Donc, avec ma fille, j'ai écrit à la direction en leur disant que financièrement, c'était pas possible pour moi, que la nourrice me coûtait plus cher que ce que me rapportait mon dimanche travaillé. Je perdais en moyenne 20 euros par dimanche travaillé.
Pourtant, vous êtes payé double.
Ah non, on n'est pas payé double, nous on est majoré au bon vouloir du patron qui nous a accordé généreusement une majoration de 30% du salaire, ce qui fait en gros pour un dimanche travaillé 8 euros brut par personne. Donc rajouté aux heures travaillées, je vous dis, ça fait 40 euros net en la louche. Et moi, ma nourrice me coûtait entre 60 et 70 euros. Et elle, par contre, elle est payée double le dimanche, ce qui est logique. Alors pas moi.
Vous avez écrit une lettre à la direction?
Deux lettres. En disant que ben, moi, financièrement, c'était pas possible, que j'étais pas forcément contre en tant qu'agent de maîtrise. Je comprenais qu'en tant qu'agent de maîtrise, je me devais de faire un effort pour la société, dans la mesure où la société me rémunérait de façon à peu près digne.
Mais de toute façon, c'était sur la base du volontariat.
Non, c'est comme à l'armée chez nous, le volontariat. C'est désigné d'office.
Vous avez envoyé les lettres à votre direction.
Oui.
Votre direction a tout de suite dit, bon, ben, on comprend effectivement vos difficultés. Bon, vous allez être exonéré de travailler le dimanche, puisque bon, vous n'êtes pas volontaire.
Non. Bah, premièrement, à la première lettre, j'ai eu aucune réponse. Donc, j'ai envoyé une deuxième lettre. Et c'est quand j'ai annoncé mon préavis de grève, j'ai dit, bon, bah voilà, moi, je vais me mettre en grève à partir de dimanche prochain. Je rejoins le mouvement des filles.
Une agente de maîtrise en grève?
Une agente de maîtrise en grève, et oui, ça existe aussi en France. Et j'ai dit, bon, bah là, il y en a marre. Tout le monde me prend pour une imbécile. Donc, après tout, je ne vois pas pourquoi on est une équipe. Je rejoins les filles qui sont en grève et je me mets avec elle dans le mouvement même.
Donc vous, en tant qu'agent de maîtrise, vous vous êtes dit, bon, ben, je suis à mi-chemin entre la direction et les salariés, je vais faire un petit pas du côté de la direction. Et puis maintenant, finalement, vous vous dites, bon, j'ai beau être à mi-chemin, je me sens quand même plus d'un côté que de l'autre.
À force d'avoir le cul entre les deux chaises, où on choisit son camp, on tombe par terre. Hein.
Et donc là, maintenant, là, vous, ça n'avait peut-être pas le 66e dimanche, parce que vous avez dû en rater un ou deux au début.
Ouais, j'en ai raté deux.
Donc c'est votre 64e dimanche.
Voilà, c'est ça.
Mais alors là, vous seriez mieux quand même, à l'intérieur c'est un petit peu chauffé, Vous seriez mieux quand même, là vous êtes obligé de mettre les mains dans les poches parce que sinon vous avez froid aux mains, vous allez avoir les pieds qui gèlent. Vous seriez un petit peu payé quand même.
Oui, je serais peut-être un petit peu payé, mais moralement, je pense que le matin, j'arriverai pas à me regarder dans la glace, quoi. Ou on accepte et on a le courage de ses opinions, on se regarde dans la glace, quitte à avoir un petit peu froid le dimanche matin.
Bon, bah alors là, faut distribuer la galette maintenant.
Bah ouais, c'est parti pour.
Je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc, moi, je suis femme au foyer, maman, et je tiens pas à ce que mes petits-enfants, ils aient cette éducation-là dans la course le dimanche, de regarder les gens travailler. Donc non, la consommation, la surconsommation, il y en a ras-le-bol. On a autre chose à faire que d'aller en course le dimanche. On va où, là? Tout ce que les anciens se sont battus, on va tout enlever, ça? Déjà la retraite, allez, on pousse. Maintenant, encore le dimanche. Et puis quand, après, ce sera quoi, la sécu? Et puis encore quoi après? Hop, la nuit. Ah bah oui, attendez, on a oublié le travail de la nuit comme aux États-Unis. Oh, attendez. Donc non, faut arrêter, arrêtons-y tout de suite là, faut y arrêter là. C'est stop. Je vous remercie d'être tous là. J'espère que vous avez mangé un petit bout de galette, bu un bout de café,
bu un café.
Mais le dimanche a une histoire, on le disait en commençant. La preuve, Michel Etiévan, qui est historien, écrivain, et qui, sous vos oreilles, devant vos oreilles ébahies, retrace l'histoire du dimanche.
Ce qui se passe là aujourd'hui sur le parking de Odé, avec la protestation contre le travail du dimanche, je dirais qu'en faisant l'histoire du dimanche, l'histoire du repos dominical ou du travail dominical, on peut faire 3 siècles d'histoire de France à partir de l'histoire du dimanche.
Je dirais même 20 siècles. Quand je lis la loi du 13 juillet 1906 et que je vois dessus écrit « Il est interdit d'employer plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos sera de 24 heures et sera donné le dimanche ». Ça, derrière ça, il y a 20 siècles de lutte, d'histoire mouvementée, de larmes, de recul, d'avancée. Le dimanche, c'est très vite utilisé comme le jour où se réunissent les premiers chrétiens et où on dit ce jour-là, on ne travaille pas, c'est une journée sacrée. Mais par contre, il est vraiment interdit de conjuguer ce dimanche de liturgie avec l'oisiveté. Vous le consacrez à la liturgie, mais vous ne faites pas la fête. Et puis on arrive à la Révolution française.
C'est-à-dire que c'est un dimanche où on ne travaille pas, mais il faut le consacrer entièrement au Seigneur.
Voilà, tout travail pendant le dimanche, c'est souvent des sanctions corporelles. Arrive la Révolution française, on casse le calendrier classique, donc le dimanche disparaît. On met à la place 3 décadis.
C'est toute la semaine, voilà, c'est 10 jours.
C'est 10 jours. Et puis on revient très vite au calendrier classique avec la loi de 1814, où là, on resanctifie le dimanche, c'est fini la Révolution française, et on redit encore, ce jour-là, tous les interdits dominicaux, on ne travaillera pas le dimanche, et tout ça. Et il faut attendre 1880 pour voir cette loi être abrogée par les Républicains, qui, eux, n'acceptent pas la sanctification du dimanche.
C'est les Républicains, c'est la gauche, voilà, à l'époque, en 1880, qui lutte pour le travail du dimanche. Et ce sont les royalistes et les catholiques, c'est la droite qui défend le repos du dimanche.
Voilà. Mais déjà, dans cette loi de 1880, quand ils abrogent la sanctification du dimanche, il y a des luttes qui s'organisent. Il y a d'abord toutes les luttes ouvrières. La CGT, qui réclame la grève du dimanche. Il y a la bataille des hygiénistes qui disent qu'il faut absolument un repos hebdomadaire parce que sinon, nos poumons ne vont pas se restaurer. Et on arrive à cette fameuse loi de 1906 par une conjonction de batailles de gens qui sont complètement différents. Et où là, alors, on laïcise le dimanche. C'est important de dire pourquoi en 1906. C'est parce qu'on est en plein dans la catastrophe de Courrières. 1099 morts. Il y a un climat social hyper tendu.
Il y a des émeutes dans tout le nord de la France, mais vraiment, les officiers de Clémenceau, ils tirent sur la foule. Oui, c'est aussi la naissance de la CGT à cette époque-là.
C'est la charte d'Amiens.
Et on a un 1er mai qui est le premier 1er mai avec la CGT.
1906, qui est extraordinaire.
Où alors là, Clémenceau, il fait emprisonner à l'avance tous les leaders syndicaux. Tous les postiers qui feront grève, ils seront licenciés. Les bourgeois, ils font des réserves en pensant que ça y est, c'est la révolution. Ils font des réserves, ils vont vider les magasins. Et finalement, au lendemain de ça, ce qui est réclamé le jour du 1er mai,
c'est la journée de 8 heures.
Voilà.
Les ouvriers réclament la journée de 8 heures. Et là, c'est les chemins un peu tortueux de l'histoire qui font qu'ils n'obtiennent pas la journée de 8 heures, mais ils vont obtenir le repos dominical à la place.
On se débarrasse, en somme, de la grande bataille de la journée de 8 heures pour donner le repos dominical, quoi. La lutte pour l'harmonisation du repos hebdomadaire de 1906, et elle est portée par les catholiques, par le mouvement ouvrier, mais elle est surtout portée par tous ceux qui n'avaient pas le repos hebdomadaire. Je pense aux garçons coiffeurs, je pense à tous les employés de commerce. C'est eux qui portent la bataille de 1906, hein, parce qu'ils n'ont pas le repos hebdomadaire. Et j'ai retrouvé des archives extraordinaires, dont une affiche, dans laquelle on voit des... Il est écrit ceci... Ouvrier, si tu veux libérer les employés du commerce, ne va pas acheter le dimanche. Va faire tes courses dans la semaine et si possible avant 18h pour pouvoir permettre aux ouvriers du commerce de... Il y a une bataille de souterraine qui est assez fantastique.
Un siècle après, c'est la même histoire.
Un siècle après, c'est pareil, on se retrouve ici sur le parking de D avec, avec l'évêque, avec la CGT, avec les associations de catholicisme social, avec les associations d'extrême gauche.
Il y a un siècle, ce fut un beau dimanche du mois de mai qui vit naître sur les visages un sourire radieux.
France 2.
1906, la loi impose le dimanche chômé, ce dimanche sans travail que la révolution industrielle avait remis en cause pour faire tourner les usines, 7 jours sur 7.
16 novembre 2008.
La belle époque entend la grogne des ouvriers et finit par leur accorder le repos hebdomadaire, un peu par défaut. Alors ce temps libre, on le consacre bien sûr au Seigneur. Mais il devient à la belle époque aussi le jour de la famille, de sa cohésion, autour du repas du dimanche.
Une belle famille de chez nous.
Un rituel dominical qui traverse les âges. On s'habille un peu, le repas est copieux. La famille se retrouve après une dure semaine. C'est en 1906 que se développe aussi ce jour-là le temps des loisirs, guinguettes, fêtes foraines et sports. Et ce dimanche-là, familial, d'amitié et parfois d'ennui, est né, figurez-vous, de l'union improbable, il y a 100 ans, des laïcs et des catholiques.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis François Ruffin, j'ai rendez-vous avec l'archevêque.
Ah ben c'est lui-même. Entrez, je vous en prie.
Merci. Mon père, ou c'est pas mon père qu'on dit.
Oh, si, on peut dire, mon père, monseigneur, excellence. Et puis si on a fait le séminaire ensemble, qu'on s'est connus tout petit, on dit bon, Philippe.
Bon bah, excellence alors.
Oh non, non, non.
C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un archevêque qui va soutenir les salariés dans un conflit contre leur employeur.
Pour moi, comme évêque et comme chrétien, le dimanche est quelque chose qui doit être préservé. Et vous savez que les évêques s'étaient prononcés au moment où la loi a été votée pour dire qu'ils trouvaient que cette loi ne permettait pas de créer du lien social. Au contraire, qu'elle allait encore laisser les gens dans une situation simplement de consommateurs.
Pourtant, vous travaillez le dimanche.
Vous savez, quand je suis allé le 2 mai, il pleuvait, et je suis tombé le jour où alors un des directeurs, c'est pas lequel, donnait des tracts à l'entrée pour une promotion. Alors j'ai trouvé que c'était presque de la provocation. Je lui ai dit gentiment, et il m'a dit cette réflexion, vous travaillez le dimanche. Alors j'ai bien répondu que je vais quand même pas dire au docteur ne soignez pas. Je ne vais quand même pas dire aux hôpitaux arrêtez. Alors vous voyez, consommer et surconsommer et encore consommer le dimanche, on peut peut-être attendre le lundi et permettre aux gens de vivre autre chose que d'aller encore consommer ou encore acheter.
Vous savez que parmi les chrétiens, j'ai posé la question, il n'y en a pas beaucoup qui allaient à la messe avant de travailler dimanche et il n'y en a pas beaucoup qui comptent y aller après.
Oui, mais là...
Il n'y en a pas en fait.
Il n'y en a pas en fait, mais il ne faut pas désespérer. Un jour viendra, et ça je suis persuadé, et ça commencera peut-être par vous, mais peut-être que vous allez à la messe le dimanche. Mais demain, tous ces gens-là, voyant le prêtre, l'évêque et tout, ils diront, mais on pourrait aller chanter à l'église un petit moment, un tout petit moment, on ne demande pas de chanter à l'église toute la... Et puis, de prendre un peu de temps pour s'écouter, et quelquefois même prendre du temps de silence ensemble.
Alors, excellence.
Ah non, non. Mais vous avez l'air sympathique, vous pourriez presque me dire Philippe.
Je me demande, d'un point de vue historique, ça signifie pas quelque chose. À savoir, la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, elle est due à deux choses. l'Église, qui est à l'époque encore une puissance malgré la séparation de l'Église et l'État, la religion catholique qui est installée dans le pays. Et le deuxième point, c'est le mouvement ouvrier qui montre une certaine puissance, particulièrement en 1906 où il y a des grèves qui sont de très longue durée et où on a la conjonction, on peut dire, de ces deux puissances, le mouvement ouvrier et l'Église, qui impose le repos dominical obligatoire. Je me demande si aujourd'hui, en 2007, 2008, 2009, au moment où la loi est passée, aujourd'hui en 2010, il n'y a pas une double chose qui se passe. Il y a une déchristianisation assez large de la société qui fait que le dimanche n'est plus le jour du Seigneur, sauf de manière marginale. Et deuxième point, un affaissement du mouvement ouvrier. Et de ce fait-là, comme ces deux piliers, c'était les deux piliers de la loi 1906, on peut se permettre de revenir là-dessus et de laisser une totale place à ce qui domine aujourd'hui, à savoir la société de consommation.
Oui, votre analyse, elle est d'un côté comme de l'autre, on peut moins s'imposer. Et c'est là que normalement l'État devrait avoir plus de place pour que le plus fragile soit mis au centre. Vous allez avoir une société qui va générer, sous prétexte d'être au service de chaque individu, des dynamiques mortifères.
Allez, bon après-midi, merci d'avoir reçu en tout cas.
J'aime bien les vidéos, j'ai écouté plusieurs fois l'émission entre les voitures et j'aimais bien.
Eh bien écoutez, on a des auditeurs auxquels on ne s'attendrait pas naturellement. Très bien, je vous remercie, Monseigneur. Merci. Au revoir.
Eh ouais. 14 janvier 2011, dans la base, si j'y suis, on apprend qu'un évêque nous écoute. Voilà, on retourne sur le parking.
Je sais plus d'où on se connaît, mais...
L'Aix-Saint-Pascal.
Ah, très bien, alors on est en terrain de connaissance. On est aujourd'hui, enfin comme d'habitude, depuis 60 dimanches en grève. On souhaite savoir quelle est la motivation en tant que consommateur pour venir le dimanche matin.
Ben, c'est que j'ai plus rien, voilà. C'est très rare que je vienne le dimanche. Mais bon, ça arrange quand même quand c'est ouvert.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'aller à l'encontre de notre combat le jour où vous faites ça? Parce que ça fait 67 dimanches qu'on est là, par tous les temps, le vent, la pluie, la neige. Tout ça pour essayer de faire respecter notre droit au repos dominical. C'est vrai que lorsqu'on voit les consommateurs passer devant nous, on se dit, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de détruire?
Non, pas trop.
Ou pas?
Non, on n'a pas conscience, en fait.
Est-ce que vous pensez que les caissières qui sont là, elles sont volontaires pour travailler?
Non, le dimanche, elles tirent la gueule, je sais. Elles tirent la gueule, parce que moi, si je vais travailler le dimanche, je vais tirer la gueule.
Parce que moi, j'étais caissière dans un EV. Je leur ai envoyé une lettre en leur disant que je n'étais pas volontaire. Ça ne les a pas empêchés de me licencier.
Voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec vous. Ouais, ça, c'est dégueulasse.
Vous c'est travaillez dans quel secteur, madame?
Je suis agent technique dans une mairie. Et donc, moi, je n'ai pas ce problème puisque je finis le vendredi.
Et si on vous disait, finalement, maintenant, vous irez travailler le dimanche?
Ah non, on m'a déjà proposé, j'ai dit non, même le samedi.
Et si vous, on vous rendait votre travail en mairie obligatoire le dimanche?
Je crois que je changerai. Hein. Tout simplement. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui l'engagement de désormais de ne plus faire les courses le dimanche, rien que pour soutenir ce combat?
Ah oui, vous me verrez plus à partir d'aujourd'hui. Hein.
Très bien. C'est une belle conclusion.
Voilà. Non, mais...
Donc là, vous n'allez pas aller faire vos courses, finalement?
Là, vu que c'est ouvert, je vais y aller.
Alors aujourd'hui, vous allez faire vos courses, vous allez acheter quoi?
Moi, je vais prendre juste, j'ai besoin du café puis une baguette de pain, voilà.
La baguette de pain, prenez-la chez le boulanger, il a besoin de travailler aussi.
Oui, mais moi, j'ai pas de café, c'est ça, c'est pour ça. Hein.
Il y a du café là-bas qui est prêt, si vous voulez. Il reste
du café.
Je vous prête le thermo et puis vous me le rendrez lundi.
Tu le donnes à Yves, il me le redonnera.
Allez, demandez à votre voisine, elle vous prêtera du café, c'est ce
qu'on faisait. Non, je vais aller voir ma sœur, elle va me donner du café.
Vous montez à Tours-en-Savoie, je vous le donne, le paquet.
Non, mais ma sœur, elle me passera bien. Café. C'est pas un souci, on verra ça demain. Voilà. bon courage. Hein.
Merci.
Allez.
Vous devriez distribuer les tracts à tout le monde parce que...
En tout cas, lorsqu'on était là, personne n'osait passer. On avait le mot qu'il fallait. Très très peu ont quand même résisté à ce qu'on pouvait leur dire et leur expliquer et maintenaient leur position quand on était là.
Donc c'est pour ça que là, l'ordonnance du tribunal, c'est de vous renvoyer à 150 mètres. Et c'est plus difficile pour vous de...
Beaucoup plus parce qu'on n'a pas le contact direct avec le consommateur. Il est dans sa voiture, il n'a qu'à remonter la vitre et se cacher derrière pour oublier sa conscience. Lorsqu'on est comme ça, face à face, les yeux dans les yeux, et qu'on leur parle des conséquences de leur démarche, c'est beaucoup plus difficile. On les met quand même devant la réalité. Généralement, ils rebroussent chemin. J'appuie quand même sur le fait que Bernard Anxionnaz a toujours été notre socle et c'est lui qui a créé le lien entre nous, cette amitié qui dure et dont on... Donc... Je dis de me taire, mais il m'a aussi appris la désobéissance. Donc, cela se retourne contre lui aujourd'hui. Donc, je ne l'écoute pas, je fais comme il m'a toujours appris. Tu écoutes, mais tu ne fais que ce que tu veux. Voilà. Donc, on ne serait pas debout ici devant vous à vous remercier s'il n'avait pas été là depuis 20 ans à toujours nous soutenir, nous aider et à nous remonter le moral quand ça n'allait pas, puisque bien sûr, ça arrive. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous toutes, on a quasiment les larmes aux yeux de voir tout ce monde aujourd'hui pour nous soutenir. Merci, merci à tous.
Merci. Bah alors mon père.
Je te parle plus.
Non, parce que j'ai appris que je devais vous appeler mon père. Je savais pas, moi, quand je venais ici.
Je te parle plus. Hein.
J'ai vu que vous aviez une drôle de manière de célébrer la messe sur le parking de ED. En bonnet, en mettant du Bella Ciao, et puis en invitant tous les syndicalistes, tous les rouges de la vallée, quoi.
Mais c'est une messe aussi. Il y en a d'autres qui font le service religieux. Moi, je suis là présent au milieu de l'humanité qui se lève. Pas celle qui est couchée, quoi. Voilà.
Mais alors, depuis quand vous êtes un prêtre rouge comme ça?
Mais rouge, ben, je sais pas. J'ai au séminaire, je faisais un mémoire sur la situation du syndicalisme en France. Ouais. En travaillant avec ceux avec qui je travaille, je peux pas rester blanc, hein. Ni jaune, ni rose. Je suis obligé d'être rouge. Hein.
Et à la sortie du séminaire, donc, vous êtes allé faire prêtre normalement ou bien?
Ouais, pendant 2 ans. Puis après, bon, je suis rentré au boulot parce que je pouvais pas rester les mains dans les poches. Il fallait que je sois avec les gens, puis en suer avec eux, quoi. Voilà. Puis j'ai fait 32 ans dans le bâtiment. Voilà. Maçon, coffreur. C'est là que j'ai gardé mes meilleurs amis aussi. Là, c'est du vrai, c'est du solide. Les Portugais, les Arabes, on est comme des frères, quoi. On n'est pas comme des frères, on est des frères. Voilà. On en a sué ensemble. Voilà, on se sent un peu plus proche, quoi. Voilà. On se révolte sur un chantier. Vous rentrez, bon, vous êtes neutre. Et puis petit à petit, vous rentrez dans la révolte, hein, parce que vous êtes humilié. On stoppe, on dit non, on est des êtres humains, on n'est pas des bêtes. On a bloqué. On a fait des bagarres pour pas travailler sous la pluie, la neige. Fait arrêter les chantiers. Alors, et puis petit à petit, ben, on gagne des droits, comme ça. Puis on rentre à la maison. Quand il pleuvait le matin, j'avais acheté un baromètre pour savoir si le temps il était au beau, il tournait au... mauvais temps, pour analyser comme il faut la situation, pour faire pression de façon juste. Si ça part au beau, ça veut dire que c'est quelque chose qui se termine. Alors il ne s'agit pas d'arrêter, puis qu'une heure après, il y a grand soleil, quoi. Il faut deviner ça. C'est-à-dire que si on sait que la perturbation arrive, là, on tient bon.
C'était la météo syndicale, alors.
Ouais.
Le baromètre, il indiquait quelle allait être la dureté du conflit social que vous alliez entamer.
On téléphonait aux météo locales aussi. Pour savoir la tendance de la journée. Celui à qui on se réfère, il a passé sa vie à faire lever les gens, les mettre debout. Hein, voilà. Il n'a pas été curé, il n'a pas passé sa vie dans les temples. Hein. Il était dans les villages avec le peuple, puis voilà. Chagrine beaucoup, c'est d'avoir travaillé pour des gens qui. On n'aurait pas dû leur travailler pour eux, on aurait dû leur piquer le pognon plutôt que le travailler.
C'est clair.
Il y a des moments où on a travaillé. Pour un banquier libanais, je voyais les chantiers de Bellecôte, là. 2 milliards de centimes le chalet. Hein. Et qu'on profite tous dans la vallée de ce. Pour payer leur bluff et leur frime, pour épater la galerie et leurs copains. Je veux dire, là, il leur faut de la monnaie, et il faut qu'ils la prennent à quelque part. Où voulez-vous qu'ils la prennent si ce n'est sur notre dos, hein. C'est-à-dire en nous pressurant, en nous enlevant tout ce qu'on a, pour qu'ils puissent faire les beaux, à réserver une piste à eux pour tout seuls. Et ils sont là maintenant en train de nous narguer encore, continuer.
Alors là, vous avez eu votre doigt qui a montré la fenêtre de chez Madame Pointé à Tours en Savoie, mais vous montriez, vous désignez, on devine, attendez, je soulève le rideau de la fenêtre, le sommet, les sommets enneigés là-bas, Courchevel, c'est par là ?
Oui. On est en train de vendre notre montagne aux super riches.
Donc là, il y a la France d'en bas, elle est ici, elle est dans la vallée, elle a Tours en Savoie, et la France d'en haut, elle est sur les sommets que vous avez pointés du doigt à Courchevel, alors c'est ça, monsieur Anxionin.
Et il n'y a plus que ça qui se fait, c'est plus que pour le 5 étoiles maintenant, plus que pour les gens très riches. Et ils ne se gênent plus pour le faire, on devrait les mettre en tôle ceux-là, on ne devrait pas leur faire un tapis rouge pour quand ils arrivent à la station.
Pas seulement l'évêque. L'évêque s'appelle Philippe Ballot, l'archevêque exactement. Et voilà, et ça c'était Bernard Anxionin qui est, vous avez compris, prêtre ouvrier, secrétaire de l'Union locale CGT d'Albertville pour ce 66e dimanche de refus de travailler le dimanche. Merci à toutes et à tous. Merci à Corinne, à Peggy, à tous les salariés de ED Albertville. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. C'est Coyenne Guyenne et Franck Adérère qui ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Botte. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi, après un dimanche, en principe, à pas travailler, on travaille quand même, puisque lundi à 15h, on reviendra sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Ça vous dit peut-être rien, mais vous allez voir comme c'est important, au moins pour nos voisins belges. C'était le 17 janvier 1961. Il est 16h et quelques secondes sur France Inter. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Bon dimanche. Salut.
L'espoir d'une détente en Tunisie après le discours du président Ben Ali semble s'éloigner. La police tunisienne a dispersé à coups de grenades lacrymogènes les milliers de manifestants rassemblés devant le ministère de l'Intérieur à Tunis pour réclamer le départ du chef de l'État. Selon le correspondant de l'agence Reuters, des coups de feu ont également été tirés. Et puis selon des sources médicales, 13 personnes ont été tuées par des tirs des forces de l'ordre hier soir à Tunis et dans sa banlieue, juste avant le discours du président Ben Ali qui annonçait l'arrêt des tirs à balles réelles contre les manifestants. L'opposition, par la voix de la secrétaire générale du Parti démocratique progressiste, exige la mise en place d'un gouvernement de coalition nationale. La Pologne accueille avec joie l'annonce de la béatification prochaine de Jean-Paul II. L'archevêque de Cracovie, Stanislas Divis, ancien secrétaire et ami personnel de Jean-Paul II, a remercié Benoît XVI. Le pape a validé un miracle attribué à son prédécesseur, ouvrant ainsi la voie à sa béatification le 1er mai prochain. Lors des obsèques de Jean-Paul II en avril 2005, des fidèles réclamaient déjà sa canonisation immédiate par les appels Santo Subito, son de cloche différent de la présidente d'une association de victimes de prêtres pédophiles, Barbara Doris. Elle dénonce cette hâte à honorer le pape sous le règne duquel la plupart des abus sexuels par des prêtres et leur camouflage ont eu lieu. L'Union européenne passe à l'action contre Laurent Gbagbo. Elle annonce le gel des avoirs en Europe du président ivoirien sortant et de 84 membres de son camp. Sanction prise en raison du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara. Ces 85 personnes sont en même temps interdites de visa dans toute l'Union. Les amis d'Antoine de Léaucourt, l'un des deux jeunes gens enlevés au Niger et retrouvés morts après l'assaut des forces françaises contre leurs ravisseurs, réclame la démission d'Alain Juppé. Dans une lettre ouverte au ministre de la Défense, six camarades de promotion d'Antoine de Léaucourt, lorsqu'il était en Master 2 à Poitiers, lui reprochent d'utiliser la mort des deux otages pour, je cite, « servir la propagande politique sécuritaire du gouvernement ». Le ministère de la Défense indique qu'il va proposer aux jeunes gens de les recevoir. Le parquet de Nanterre requiert la mise en examen des responsables de la Société Générale et du Crédit Lyonnais pour complicité de banqueroute dans la faillite de Moulinex en 2001. Ces banques sont accusées d'avoir continué à prêter de l'argent à Moulinex alors que la situation économique de la société était irrémédiablement compromise. Ancien fleuron français du petit électroménager, Moulinex avait déposé le bilan le 7 septembre 2001. 3300 personnes s'étaient retrouvées sans emploi. François Bayrou prépare sa candidature à la présidentielle de 2012. Lors de ses vœux à la presse, le président du Modem a précisé qu'il s'adresserait aux Français à l'automne 2011 et que janvier 2012 serait le bon moment pour entrer en campagne. Les abonnés de la ligne SNCF Angers-Le Mans-Paris se rebiffent. Environ 200 d'entre eux observent une grève de la présentation de leur titre de transport. Ils protestent contre la dégradation du service avec des retards à répétition. Une pétition regroupe par ailleurs des milliers de signatures. Le mouvement espère s'étendre aux lignes Lille-Paris, Tours-Paris, Reims-Paris et Lyon-Paris. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, rappelle que la compagnie travaille sur un plan d'urgence sur une douzaine de lignes sensibles, dont celle-ci.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Cette semaine, nous parlerons d'un roman terrible sur les souffrances humaines. Yahya Belaskri vous emmènera au Maghreb. Selon lui, les immigrés sont tous des rescapés. Il sera question de la vie de Jean Cocteau avec l'auteur Dominique Marny. Et puis nous recevrons un grand écrivain et réalisateur chinois francophone connu dans le monde entier. Dai CJ sera sur notre plateau pour son nouveau roman.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure du rendez-vous classique de la musique avec Frédéric Lodéon et le Carrefour de Lodéon.
Carrefour de Lodéon.
Bonjour à tous, un petit coup de chapeau aux divers instruments de l'orchestre, mais ces instruments peuvent jouer en soliste évidemment aussi. Bah, le violon, oui, un des rois des instruments, avec le piano, c'est un des plus enviés. Puis après ça, les autres ont essayé d'être aussi virtuoses, le violoncelle par exemple, ou l'alto. Deux violons, c'est bien. Dans les orchestres d'ailleurs, il y a deux pupitres de violonistes. Et là, Jean-Sébastien Bach a voulu mettre, on ne sait pas, peut-être pour un de ses fils et puis un étudiant ou deux étudiants, ou lui-même, parce qu'il jouait très bien du violon, il a voulu écrire deux parties pour cet instrument. Le concerto en ré mineur a été admiré par Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, ils en ont donné une très belle version jazzy. Voici une version classique ou baroque, comme vous voudrez, par Julia Fischer et Alexander Sitkovetsky. Thank you. Jean-Sébastien Bach, le vivacier du concerto pour deux violons et orchestre, des cordes et un clavecin. Nous avons entendu Julia Fischer avec Alexander Sitkovetsky et l'Académie of Saint-Martin in the Fields. Un peu plus grave, le grand frère du violon, l'alto, c'est le sage, celui qui entend tout, enfin l'altiste surtout. Il est là au centre de l'harmonie et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Sébastien Bach ou même Mozart adoraient jouer de l'alto parce qu'ils étaient au cœur des accords, ni en haut, ni en bas,